Bienvenue sur les choix de Sambava, comme habituellement sur RCC. Nous retrouvons Sophie Anctil. Bonjour Sophie.
Bonjour Anto, bonne année, patch et salut, plein de bonnes choses pour cette année 2020, parce que c'est quand même d'actualité. Hein.
Et oui, c'est la première émission de l'année 2020 que nous passerons aujourd'hui. Alors, c'est diffusé une fois le dimanche à du côté des 19h, et ça repasse le lendemain dans la nuit. Voilà, le lundi soir.
Donc comme ça, les gens, ils peuvent dormir avec une bonne musique.
Et plus ça va aller, plus on diffusera d'émissions. Lorsqu'on aura vraiment un trop gros stock d'émissions, alors on aura un gros stock d'émissions, mais on pourra faire même plusieurs émissions, plusieurs diffusions dans la semaine. On va parler des mantras dans cette émission. Alors, on rappelle le principe, hein, discussion, musique et également... parfois des invités, c'est le cas aujourd'hui, Sophie.
Voilà, donc pour la première émission de l'année, d'abord, je souhaite quand même à toute la Balagne l'abondance. L'abondance physique, l'abondance émotionnelle et l'abondance spirituelle. Et pour aller vers l'abondance, j'ai décidé aujourd'hui d'inviter Brigitte Wiesler, donc qui est prof de Kundalini Yoga sur la Balagne, et qui va nous présenter ce que c'est que le Kundalini Yoga. Bonjour Brigitte.
Bonjour Sophie.
Alors, bienvenue. Alors, qu'est-ce que le Kundalini Yoga ?
Le Kundalini Yoga, eh bien, c'est une pratique qui est ancestrale. C'est le premier yoga qui est né dans les contreforts de l'Himalaya. Et si on se réfère à l'histoire, 2600 ans avant Jésus-Christ, je pourrais même dire que... on a trouvé des documents beaucoup plus lointains. Donc, ça fait partie vraiment du fond des âges.
Ouais, c'est vieux, hein.
Bon, de là, on découlait d'autres yogas. Mais ce yoga Kundalini, il était particulier. Pourquoi ? Parce que il était transmis de maître à disciple. Et il est resté caché en Inde durant des siècles. Et c'est un grand gourou qui s'appelle Yogi Bhajan qui a décidé dans les années 70 de venir nous faire ce cadeau. Il a vraiment fait un cadeau pour l'humanité. Voilà, il est venu en Occident pour montrer ce que c'était que le yoga Kundalini et puis pour montrer d'autres choses aussi parce que dans ce yoga Kundalini, il y a toute la spiritualité qui en découle. Et la sagesse aussi que nous pouvons trouver à venir faire ce yoga.
Alors là, on entend en fond musical le Mool Mantra. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la signification de ce mantra dans le Kundalini ?
Alors, le Mool Mantra, c'est la base du sikhisme. Parce que, pourquoi ? Le yoga Kundalini, il est né dans ses contreforts de l'Himalaya, mais... dans une peuplade qui s'appelait les Sikhs. Et c'est dans le livre saint du grand gourou Sahib qu'on trouve ce Mool Mantra. C'est donc, il veut dire « Souviens-toi de qui tu es, un être aimant. Aime-toi et guéris tes blessures et rayonne l'amour intérieur qui est en toi. » Ce mantra est un mantra d'amour guérisseur. Et il nous place dans cet alignement de cette énergie.
Alors ça, c'est important parce que c'est vrai que pour pouvoir aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même.
Exactement.
Et de retrouver cette source, cette intériorité, je pense que c'est une bonne résolution pour commencer l'année. Donc on va continuer à écouter ce mantra. Thank you. Alors, le yoga, c'est quelque chose qui devient très à la mode aujourd'hui. Heureusement, c'est plutôt chouette même. Et il y a plusieurs styles de yoga, mais une des particularités du Kundalini yoga, c'est quand même justement ce travail avec la voix et avec les mantras. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement ces mantras et leur signification, Brigitte ? Et puis, moi, je suis curieuse aussi de connaître, toi, comment tu as découvert ce yoga.
Alors, si je m'en réfère pour les mantras, pour ta première question, les mantras, ce sont des vibrations qui nous nourrissent et ils appartiennent aux langues sacrées. On les chante donc en sanskrit et dans le Kundalini Yoga, on a trois mantras principaux que l'on chante chaque fois au début d'une séance et en fin de séance. Il y a bien évidemment d'autres mantras. Pourquoi ? Parce que ce sont des mantras guérisseurs. Et nous les chantons aussi toujours dans les répétitions. Et
alors, je vais juste interrompre parce qu'il y a quelque chose que tu viens de dire qui est pour moi très important. J'ai fait une émission sur le son originel que vous pouvez retrouver en podcast sur RCC. Et justement, on parle aujourd'hui au niveau quantique qu'on s'est rendu compte que les fréquences, les ondes et les mots ont un impact très fort sur la cellule, sur notre corps. Et du coup, quand on parle de cette sagesse ancestrale des mantras guérisseurs, c'est qu'il y a déjà 2600 ans avant Jésus-Christ, si j'ai bien retenu, ils avaient déjà conscience en fait de l'impact du son et de la vibration sur notre corps.
Oui. C'est exactement ça. Ils permettent vraiment d'éliminer les peurs, ils nous permettent de prendre une décision, de trancher, d'éliminer des blocages. Il y a des mantras de gratitude, ça nous permet aussi d'avoir un peu plus d'intuition. Et pourquoi ? Parce que ces mantras, nous avons des centres, des points énergétiques au niveau de notre palais. Et quand nous les chantons, notre langue vient toucher ces points énergétiques. Il y en a 82 au niveau de notre palais. Et en touchant ces points énergétiques, les vibrations remontent comme ça sur notre glande pinéale, qui est la glande principale justement de notre système endocrinien. Et cette glande, elle est directement connectée à l'univers. Et donc, quand nous chantons ça, nous nous connectons directement dans une sagesse profonde qui est bien au-delà de nous. Et qui nous permet justement d'être mieux, c'est-à-dire que nous allons libérer tout ce que nous avons de sombre à l'intérieur de nous, et chaque fois, les mantras et la répétition des mantras va nous permettre de ramener de la lumière.
Alors, il paraît qu'on n'est fait que de lumière finalement. Que même quand on se nourrit, quand on mange, il se passe un effet au niveau de la mastication qui crée de la lumière et qu'en fait ce qui nous nourrit profondément, c'est pas tant les aliments qu'on ingère, mais la lumière qui est créée par cette mastication. Donc c'est un peu le principe des gens qui deviennent praniques, qui ne mangent plus que de la lumière. Il y a des personnes qui ne mangent plus du tout d'aliments. Et moi j'avais vu un reportage très intéressant sur ça où justement en fait ils perdent un petit peu de poids au départ, puis à un moment donné ça se stabilise et c'est pas des gens qui sont maigres ou quoi ou qu'est-ce, non, il y a un poids de stabilité et ils peuvent ne plus manger du tout pendant des années. Donc c'est intéressant, et c'était un médecin qui avait fait cette émission et il avait dit tiens, je vais essayer le processus pour devenir pranique, et en fait il a, en tant que médecin, il l'observait et il l'est vraiment devenu.
Alors bien sûr, le prana fait partie d'un de nos corps énergétiques qui sont au-dessus de notre aura. Et c'est ce prana que nous venons respirer et qui nous donne aussi toutes nos possibilités pour être dans la vie. Parce que dès que nous abandonnons notre respiration, nous finissons dans des moments où nous ne sommes pas bien et où la vie n'est pas en nous parce que on ne la respire plus. Donc il faut qu'on revienne à ce mouvement de vie qui est en nous. Et les mantras et le pranayama, c'est-à-dire la respiration, nous permettent de revenir à ce mouvement de vie intérieur pour être mieux et dans un bien-être qui est réel, parce que non seulement nous sommes dans un bien-être, mais en plus, comme je le disais, nous travaillons sur nos ombres, sur nos peurs, sur tout ce qui est à l'intérieur de nous et que nous portons de nos lignées, tout ce que ont vécu nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos mères, nos parents
et nos pères.
Et nos pères, nous les portons à l'intérieur de nous et grâce à ces mantras, nous pouvons aussi nous libérer de ça. Le chant, d'ailleurs en Corse, nous voyons bien que le chant est quelque chose de très important. Et quand j'ai découvert les chants corses, j'ai après découvert les mantras et je dois dire que j'y ai trouvé vraiment une similitude, quoi. Il y a quelque chose qui est dans la spiritualité et où nous allons très loin vers l'univers. Moi, Jean-François Bernardini, par exemple, m'amène loin dans l'univers. Son frère Alain, c'est du même acabit, quoi. Ils ont des voix qui sont extraordinaires pour moi. Et les mantras nous permettent d'aller aussi vers cette lumière.
Et dans une émission précédente, j'avais passé un morceau comme ça d'Affiletta,
oui,
qui chantait
magnifique.
Des mantras qui est incroyable. Alors on va partir sur un autre mantra. Tu peux nous en dire plus sur le Ong Namo Guru Dev Namo, pardon.
Alors on appelle ce mantra l'Adi Mantra. Donc, Ong Namo Gurudev Namo, il nous permet de nous centrer dans notre identité la plus haute, pour ouvrir un espace en soi, pour être guidé, pour nous aider à nous élever et à mettre de côté nos peurs, notre orgueil et nos attentes. Voilà, c'est un mantra que l'on chante en début de séance. Et nous en parlerons après, il est suivi par un autre mantra qui est Ad Gule Name, Jugad Gule Name, Sat Gule Name, Sili Guru Dev Name, qui s'appelle le Mangala Charan Mantra et qui appuie cet Adi Mantra.
Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tout ça. Vous pouvez juste l'écouter et vous laisser porter par voir où ça résonne en vous, qu'est-ce que ça éveille en vous, si c'est apaisant, si c'est énervant, voilà tout ce que ça peut provoquer. Si en effet vous retrouvez la confiance ou vous libérez certaines choses, ou à un moment donné on a parlé d'un espace qui est plus grand que nous. Moi j'aimerais dire la supraconscience, ce dont on n'a pas forcément conscience au départ, mais qui à un moment donné, porté par les sons, porté par la vibration, peut devenir conscient en nous, et ce qu'on appelle la supraconscience. Donc voilà ce mantra.
Oh.
Alors Brigitte, dis-nous la signification de ce mantra.
Alors ce Mangala Charan mantra permet d'être guidé et protégé par notre propre conscience dans sa propre vérité, à travers chaque action, chaque instant. Il amène clarté d'esprit et concentration, et en plus il renforce notre champ magnétique.
Donc et si je chante ça tous les matins pendant un quart d'heure, je vais avoir plus de concentration, oui, mon champ magnétique va être plus élevé.
Alors disons que bon, nous le chantons en début de cours, parce que les deux là, Ong Namo Gurudev Namo et celui-là, nous permettent de nous relier à notre sagesse profonde, mais aussi à cette fameuse chaîne d'or dont on parle avec ces mantras, qui nous relie à ces fameux gourous.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un gourou ?
Alors un gourou, voilà. On peut dire ce que c'est un gourou. Ça n'a rien à voir avec les gourous dont on a parlé en France, où il y avait eu des morts, tout ça, parce qu'ils étaient embarqués avec ces gourous. Non, ça n'a rien à voir. Gourou, ça veut dire aller de l'ombre vers la lumière. Gou veut dire l'ombre, roux veut dire la lumière. Et c'est que ce que nous cherchons à l'intérieur de nous, justement, pour nous améliorer, pour aller vraiment vers l'être profond que nous sommes, pas celui qui a été éduqué à obéir, à être
conditionné,
mais à revenir à nous-mêmes, à ce que nous sommes profondément.
Donc si on va tous de nos ombres vers notre lumière, on est tous des gourous.
Alors nous pouvons être notre propre gourou, exactement. Mmh. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans notre... et ça, j'aimerais peut-être en parler aussi, parce que c'est important. Nous sommes aux prémices d'un changement. Depuis 1991, nous sommes passés à une ère qui s'appelle l'ère du Verseau et qui amène justement des connaissances que nous n'avions pas dans l'ère des Poissons. Et l'ère des Poissons une ère très compliquée.
Alors je dis juste, en fait, on est dans l'astrologie, hein, quand on parle d'une ère, c'est qu'au niveau des planètes, il y a 12 signes astrologiques et après on a des révolutions qui durent je sais pas combien de temps va durer la révolution.
Environ 2000 ans.
Voilà, 2000 ans, et que donc on a changé maintenant, on est passé de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Donc après 2000 ans dans l'ère du Poisson, nous sommes aujourd'hui, voilà, dans l'ère du Verseau.
Voilà, et en fait,
et
oui, nous sommes, c'est pour ça que nous sommes aux prémices, et ce qu'on peut dire, c'est que l'ère du Poisson a été marquée par un profond déséquilibre entre les énergies féminines et masculines, et la femme était vraiment arrachée à ses racines et exploitée par l'homme, et ça a engendré de nombreuses relations vraiment sans saveur, sans complémentarité, sans vitalité. Et on le voit bien dans notre époque, tous les divorces qui peuvent exister, hommes et femmes sont vraiment en difficulté. Et petit à petit, nous sommes en train de revenir à un équilibre. Et alors bien évidemment, nous n'allons pas connaître cet équilibre, je pense.
Alors j'en profite pour faire une petite page de pub pour mon association Ousofio, puisque j'anime un stage justement pour les femmes, et en parallèle, il y a un stage pour les hommes, ça s'appelle Sky Homme, Sky Femme, et vous pouvez retrouver l'info de ce stage qui dure une semaine et qui a lieu une fois par an, donc tous les ans, sur 3xW, donc USO2FIU.com, dans la page Sky Dancing Tantra, et je ferai une émission plus tard sur ce thème, bien évidemment. Je continue à te poser une autre question, Brigitte. Toi, qu'est-ce que t'a apporté le Kundalini Yoga? Quelle est ton expérience personnelle de ce yoga?
C'est vrai qu'il y a très longtemps que je fais du yoga. J'ai découvert les thérapies psychocorporelles dans les années 2000 et avec des cours de yoga. Et c'est vrai que dans les thérapies psychocorporelles, c'était bien, ça m'a beaucoup aidé parce que mon parcours était compliqué. J'avais eu beaucoup de violence dans ma vie avec mes parents, j'avais un frère handicapé, donc ça a été vraiment terrible. Et toute ma vie d'adulte a été donc consacrée à chercher un chemin pour aller bien et pour pouvoir vivre vraiment en relation et avec les gens et d'une bonne manière. La thérapie, pour moi, était super, hein, mais le problème, c'est qu'elle me laissait en dépendance avec le thérapeute. Et le jour où j'ai découvert le Kundalini Yoga, pour moi, ça a été une illumination. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis vraiment de revenir à mon autonomie.
Ça, c'est important, l'autonomie.
Voilà.
De pouvoir ne pas dépendre de quelque chose, d'aller chercher l'aide quand on en a besoin à l'extérieur, mais de pouvoir être autonome afin de nous, en fait, sentir le moment juste, quand c'est juste pour nous, de faire ce qu'il y a à faire et puis bah, pouvoir gérer ne serait-ce que ces émotions dont on a parlé aussi dans une autre émission et d'apprendre, en fait, à réguler nous-mêmes notre système. Donc ça t'a apporté une régulation à l'intérieur
et
de toi.
Ça m'a apporté ça, ça m'a apporté aussi la confiance en moi. Parce que surtout au niveau des paroles, puisque nous parlons des mantras. Vous savez, les mantras nous permettent de pouvoir libérer tout ce que nous avons retenu dans cette gorge, dans ce centre énergétique que nous avons au niveau de la gorge. Tous ces non-dits, parce que notre conditionnement a fait que nous n'avions pas le droit de dire et de nous exprimer, ce yoga m'a permis de trouver les bons mots, la justesse des mots, et d'aller justement pouvoir parler avec des personnes et expliquer vraiment ce que je suis. Compliqué, mais je suis sur un chemin.
Tu parles du cinquième chakra, le cinquième centre énergétique. Donc dans la carte en fait des chakras, on en a sept principaux dans le corps, et le cinquième donc est relié à tout ce qui est expression, donc expression, communication. Donc ça va aussi. C'est un chakra. Les chakras en fait, ce que ça veut dire en sanskrit, c'est une roue. Donc c'est une roue, c'est comme une petite spirale en fait qui tourne. Vous voyez les petites spirales dans l'eau des fois, ou les petits siphons qu'on peut voir. Donc ça, c'est vraiment une belle image pour pouvoir se représenter ces centres énergétiques dans notre corps. Et c'est vrai que le chakra de la gorge, c'est un chakra qui me touche particulièrement parce qu'il peut y avoir, ça peut être un centre qui marche trop fort. Donc quand il marche trop, bah, c'est des personnes qui sont trop dans l'expression, qui laissent pas la place aux autres, qui parlent dans un débit non contrôlé et il n'y a pas de temps de silence. Ou ça peut être un chakra qui est plus éteint, donc des gens qui ne parlent pas du tout, qui sont complètement effacés, qui a été bloqué parce qu'il y a beaucoup de non-dits ou parce qu'ils n'ont pas eu le droit à l'expression. Et du coup, c'est un chakra, voilà, quand on arrive à trouver l'équilibre et qu'il tourne à sa juste valeur, on va dire. Du coup, ça permet, voilà, de pouvoir exprimer qui on est, en laissant la place aux autres, en s'accueillant dans qui on est, et et de pouvoir se relier en fait à ce qu'il y a autour de nous. Donc c'était un petit aparté sur le Vishuddha chakra, pour citer son nom sanskrit. Alors, dis-nous, toi, Brigitte, du coup, ce Kundalini Yoga, tu es devenue enseignante ?
Alors oui, en fait, ça a vraiment été un moment important pour moi, parce que bon, j'avais déjà fait de l'enseignement. Je donnais des cours de patinage artistique il y a quelques années en arrière. Et depuis, je cherchais vraiment un chemin. Et lorsque j'ai découvert le Kundalini Yoga, ça m'a tellement fait de bien que je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça simplement pour moi et que je pouvais justement aider les autres. Comme j'ai décidé de ne plus être infirmière, je ne voulais plus continuer à rester dans ce système de soins qui pour moi était un système de soins maltraitant. Je voulais amener autre chose aux gens. Je voulais vraiment amener un soin, et un soin par le toucher, par l'amour, et par la compassion, par la bienveillance. Ce qui n'est pas encore dans notre système actuel, vraiment.
Qui commence à l'être, mais on va dire que c'est pas prédominant.
Voilà.
Donc tu donnes des cours en Balagne.
Donc j'ai décidé de donner, en plus de faire mes massages et de la thérapie psychocorporelle et des soins aux gens pour être bien en accord avec ce qu'ils sont. J'aide notamment des personnes qui sont dans la violence avec leurs enfants et qui viennent chercher avec moi des possibilités pour arrêter cette violence. Voilà pourquoi ce yoga j'ai trouvé vraiment cette force en moi de pouvoir l'enseigner à des personnes qui viennent vraiment chez moi. Je fais ça chez moi, à la résidence Chantilly, à côté du rond-point d'Arègne, sur la route d'Arègne. Voilà, je suis juste en dessous des médecins et du centre médical.
Algajol.
Oui, je suis beaucoup plus près d'Algajol, bien évidemment, que du village d'Arègne. Alors, suis presque à la plage, en fait.
Dis-moi, si j'ai envie de faire du Kundalini yoga, même si je ne maltraite pas mes enfants, et que j'ai envie de retrouver voilà, le bien-être en moi et d'avoir confiance en moi, quand est-ce que je peux venir te voir?
Alors, mes cours sont le mardi et le vendredi de 10h à midi. Et puis, le jeudi soir de 18h30 à 20h30. Ces cours, ils commencent. Alors, ils sont ouverts à tous. Il y a, en effet, il n'y a pas de niveau dans le Kundalini Yoga. C'est vraiment une pratique qui se fait à l'intérieur de soi. Ça commence par d'abord un centrage dans la posture tailleur. Proprement dite, hein, et venir vraiment se centrer dans la terre et avec cette verticale que nous avons aussi au niveau du ciel. Et puis ensuite, il y a des postures, il y a des pratiques de pranayama, donc on respire, on fait, il y a plusieurs pratiques qui permettent justement d'aller vers un mieux-être et découvrir justement toutes les possibilités en nous que nous avons dans cette respiration, parce que nous avons vraiment un potentiel extraordinaire. Et puis, nous avons donc le chant mantra, nous faisons aussi des bandhas, c'est-à-dire que nous venons fermer des parties de notre corps, et ensuite nous les expirons.
Alors, juste pour reprendre, moi je connais un peu le yoga, donc je me permets de t'interrompre. Un bandha, c'est l'équivalent d'un verrou, c'est-à-dire que, par exemple, on ferme, quand on dit on ferme une partie de notre corps, quand on ferme Muladhara chakra, donc c'est le chakra racine, c'est-à-dire qu'on va contracter la zone périnéenne, comme si on se retenait pour aller faire pipi. Donc, j'explique. Et on peut fermer la gorge aussi en rentrant le menton sur sa poitrine, donc ce qui permet de fermer ce chakra et de pouvoir en fait concentrer. Si tu fermes la racine et que tu fermes la gorge, du coup l'énergie elle est comme condensée en fait entre ces deux espaces et elle peut circuler dans tout le corps.
Voilà, exactement. Et alors en plus, donc à la fin du cours, elle se termine avec une bonne relaxation. Le jeudi soir, c'est souvent une relaxation guidée. Parce que je fais un petit peu de yoga nidra. Et puis ensuite, nous faisons une méditation. Voilà.
Alors donc, c'est une pratique qui se fait en groupe?
Oui, voilà. Ça peut être en groupe, comme je peux aussi faire des cours particuliers si les gens sont intéressés.
D'accord. Et du coup, quel est le tarif? Comment on te joint?
Alors, le tarif, c'est pour les gens qui viennent ponctuellement, ça coûte 15 euros. Je me suis mis au tarif de toutes les autres personnes qui font du yoga ici sur l'île, parce que nous commençons vraiment à être de plus en plus nombreux, hein. Au départ, il y avait juste une personne sur Algajol. Là, maintenant, je vois qu'il y a bien d'autres professeurs qui viennent sur l'île et qui commencent vraiment à amener cette énergie à cet endroit.
C'est vrai que l'île s'y prête quand même, hein. Il y a des endroits pour pratiquer du yoga en pleine nature. Moi qui ai commencé quand j'avais 18 ans à Paris, j'avoue que quand je mets mon tapis sur les rochers à Lumio et que je peux faire 2 heures de yoga, de pranayama et de chant même, parce que souvent on finit aussi avec les chants, c'est le paradis, hein. Oui. Et on dit que l'Éden pour moi il est sur terre, hein. Il n'est pas ailleurs.
Exactement. Hein. Ça nous permet vraiment de nous connecter à cette nature magnifique. Parce que bon, on le voit bien, souvent les gens savent qu'ils habitent une île qui est extraordinaire, mais dans la vie de tous les jours, on ne voit pas toute cette beauté finalement.
Parfois, on a tendance à l'oublier. Alors moi, je le redis à tous les balanins, nous vivons au paradis. Pensez, le matin, éveillez-vous juste avec ça. Paradis, abondance. Vous allez voir, faites l'essai pendant un mois, ça va vous changer la vie.
C'est vrai. Donc, pardon, c'est pour ça d'ailleurs que je suis restée, parce qu'au début, j'étais vraiment arrivée pour chercher un chemin pour en moi. Mes enfants étaient grandes et donc je me suis isolée un petit peu de la famille, du continent, et j'ai vraiment trouvé un paradis sur terre. Exactement, c'est vraiment là que je trouve la paix à l'intérieur de moi, et j'en suis très heureuse, quoi. Et surtout, je suis très heureuse de communiquer ça aux autres, parce que c'est trop beau, quoi.
Donc, Brigitte, si on veut du coup que tu nous communiques ça, c'est quoi ton numéro de téléphone?
Alors, c'est le 06 80 32 81 73.
Et du coup, on peut te trouver, réserver, venir essayer un cours de yoga, voir si ça nous plaît.
Alors, puis... j'ai un site internet. Mon site, c'est www.corpou, donc C-O-R-P-U, Core, C-O-R-E, Energia, E-N-E-R-G-I-A.
.com.
Voilà, il est en remaniement en ce moment, mais bientôt il sera à jour.
Oui, il va très vite être à jour.
Voilà.
Alors, tu as nommé tout à l'heure un yoga, du Nidra Yoga. Donc, il y a plein de sortes de yoga différents.
Voilà, oui. Ça, alors, le Kundalini Yoga, c'est le yoga ancestral. Et de ce yoga ont découlé les autres yogas.
Alors moi j'ai envie de dire qu'il y avait le tantra et du tantra a découlé le yoga, mais ça fait partie en fait des... Parce qu'on parle aussi du tantra dans le yoga de Kundalini, oui. Parce que c'est très lié en fait sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et pour faire une petite définition de ce qu'est le tantra, c'est qu'on est dans un monde dual, on est dans une dualité bien sûr, et en fait la vie nous permet d'expérimenter sur cette dualité, pour revenir vers l'unité, l'unicité. Et c'est un espace qu'on a tous en nous, dans notre mémoire, parce que quand on est dans le ventre de notre mère, on est complètement dans l'unité. Et c'est vrai que lorsque on sort de ce milieu où on est nourri, logé, blanchi, et qu'on est juste dans un état suprême d'unicité, qu'il faut commencer à respirer par soi-même, qu'il faut commencer à bouger par soi-même, à se nourrir par soi-même, donc en fait là on rentre dans la dualité, et du coup on découvre l'ombre et la lumière, et je pense, mais c'est ma croyance personnelle, qu'on est là pour l'expérimenter, pour pouvoir ensuite prendre conscience de cette dualité et la laisser pour aller vers de nouveau l'unicité. Parce qu'on est tous connectés, ça a été aussi, c'est quelque chose qui fait partie des recherches aujourd'hui qui ont été découvertes en quantique, où en fait on est connecté à tout ce qui est autour de nous, à l'univers, on fait partie de ce tout.
Oui, exactement.
Et souvent quand on demande une définition de Dieu, parce que pour donner une connotation entre guillemets religieuse, si je demande à quelqu'un, pour toi c'est quoi Dieu, ou explique-moi qu'est-ce que c'est Dieu, on dit il est partout, il est dans tout, c'est exactement la définition du quantique, quoi. On est tous reliés, c'est partout, il y a une conscience qui est là, tout autour de nous, et il suffit juste de se connecter à elle, quoi. On va faire une petite pause musicale et on va continuer après cette pause musicale pour vous donner qui était ce fameux Yogi Bhajan, parce que il y a un petit truc rigolo que j'aime bien avec lui, que vous allez sûrement vous devez déjà le connaître, mais vous savez pas que c'est lui. Voilà, et je vous laisse avec ce mantra.
Hey, Guru, help me, help me.
Alors, le yoga, bah, quand on parle du yoga, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de yoga. Et on fera une émission sur ça pour parler de toutes les sortes de yoga qui existent, puisqu'il y a l'Astanga yoga, le Vinyasa yoga, le yoga Bikram, on a parlé du yoga Nidra, et il y a bien sûr le Hatha yoga. Mais Brigitte, d'abord, quelle est la définition du yoga ?
Alors, le yoga veut dire union. C'est l'union d'une conscience individuelle à une conscience infinie. Il explore les dimensions de l'être au niveau physique, psychologique, émotionnel, dans sa nature profonde. et il nous permet de découvrir notre infini potentiel en nous-mêmes. C'est en faisant l'expérience du yoga que nous allons vers notre cœur et atteindre une véritable sagesse. Je voudrais aussi rajouter que parfois on associe la notion de secte au yoga. Ça fait peur. Et il faut être prudent avant de parler de secte. Il y a un endoctrinement de la personne et la création d'un rapport de pouvoir. Alors oui, il faut être très attentif aux dérives sectaires. Mais yoga n'est absolument pas un synonyme de secte, ni de religion.
C'est l'union.
C'est ça.
Alors peut-être que ça peut faire peur des fois de s'unir à soi-même, mais dans l'absolu, c'est quand même un idéal.
Exact. Voilà, les sectes, au contraire, elles isolent les individus et les conduisent à un repli sur eux-mêmes. Et c'est là-dessus que tant de gens sur cette terre sont repliés à l'intérieur d'eux. Ils mettent des barrières tout autour d'eux parce qu'ils sont dans leurs croyances. Et c'est comment on peut sortir de ces croyances qui sont négatives et enfermantes.
Donc sur n'importe quelle pratique, quelle qu'elle soit, si tout d'un coup vous vous sentez replié sur vous-même, dépendant de la personne qui vous donne un enseignement, et que vous vous isolez, là ça veut dire que vous êtes peut-être dans une secte, c'est ça?
J'ai pas trop bien compris.
Bon, alors c'est le docteur en logique, hein, je vous explique. Donc si j'ai bien compris, en fait quand tu parlais de secte, il fallait se méfier en fait de si tu te sentais toi tu te sentais isolé, enfin que ça isolait les individus et que ça te conduit à un repli sur toi-même, du coup que là on était peut-être dans une dérive sectaire. Donc je dis si on sent ça avec quelqu'un qui nous donne un enseignement,
ah oui,
faut peut-être se méfier,
voilà,
quoi,
c'est
voilà.
Ça exactement.
Donc si au contraire, bah vous vous sentez plus dans l'union, dans la joie, dans le partage et vers l'autonomie et l'indépendance, là on l'est pas. Et voilà. Comme yoga veut dire union, c'est justement le contraire du principe de la secte.
Exactement.
Alors, parle-nous un tout petit peu du créateur de ce Kundalini Yoga qui englobe justement 8 yogas.
Alors, ce créateur, il s'appelait Yogi Bhajan. Et ce Yogi Bhajan, ça a été un homme exceptionnel. En relisant mes notes ces derniers jours, justement pour en parler, j'ai découvert ce Yogi Bhajan et oui, il était incroyable, quoi.
Donc c'était un Indien, c'est ça? Mais
alors oui, il est né au Punjab en 1924.
Donc c'est ce qu'on appelle le Pakistan moderne.
Voilà,
hein, pour
situer.
C'est ça.
Et il était dans une famille de gens. Son père était médecin. Il a fréquenté à l'époque des écoles
aisé,
privées.
Quoi.
C'est un milieu
quelqu'un
aisé.
Qui sortait d'une caste quand même haute caste. Hein, donc
voilà.
Pas du tout dans la difficulté.
Et puis c'est vrai qu'il a commencé son enseignement yogi à 8 ans. Il avait un professeur qui était exceptionnel aussi et qu'il a nommé grand maître yogi. Il avait 16 ans, hein, Yogi Bhajan, quand il a été grand maître yogi, quoi. Et cet homme-là, bon, ben, pour définir un peu la force qu'il avait en lui, on l'appelait le mur de Chine. Et lorsqu'il y a eu les événements avec l'Angleterre et le découpage des régions, c'est lui qui a amené les 7000 personnes de son village d'un endroit à un autre, puisque les gens étaient délogés du Pakistan et de l'Inde. Et ils devaient revenir, s'ils étaient hindous, dans l'Inde, ou s'ils étaient musulmans, ils devaient repartir sur le Pakistan. Donc ça a été des périodes très fortes. Et lui, il a accompagné donc ces gens d'un endroit à un autre. Il est arrivé juste avec sa chemise et short à New Delhi. C'était extraordinaire, quoi.
Alors après, il avait un parcours où il est parti donc à l'étranger.
Alors,
il est parti au Canada dans les années 60.
C'est ça,
aussi,
parce que en fait, c'est ça qui nous a amené Yogi Bhajan. C'est que ce yoga Kundalini, il l'a amené en Occident et il s'est fâché avec ses pères qui ne voulaient pas que ce yoga Kundalini soit divulgué, parce qu'il était donné de maître à disciple. Et lui, il a estimé que nous en aurions besoin dans ces périodes de vie que nous passons actuellement. Et en effet, on le voit bien, la terre bouge en permanence. Il y a il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de violence aussi exacerbée, mais en même temps, il y a un monde parallèle qui est en train de s'ouvrir dessous.
Donc lui, il a quitté l'Inde, il est parti au Canada et là, en fait, il a commencé à donner des cours de
yoga.
Alors
il a commencé à donner des cours de yoga et en fait, du grand maître yogi qu'il était, il est parti de rien parce qu'un maître yogi, ben, c'était pas vraiment reconnu hein, en Occident à l'époque. Donc il a commencé à donner des cours, même il était, il donnait ses cours dans une cuisine d'un restaurant. Et les gens affluaient pour ses cours, vraiment.
Alors dans le mot maître yogique, en général aussi, on a toute une connaissance de ce qu'on appelle l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est comme une tradition, enfin c'est une science, on va dire, indienne, où on prend en compte au niveau de notre corps, si on est pitta, vata, il y en a quatre, donc c'est le vent, c'est l'air, c'est les éléments. Et du coup, avec l'alimentation, on régule en fait le trop de vata ou le trop de pitta ou le trop, enfin voilà, les trop, il y en a quatre, hein, c'est ça, je me rappelle plus les deux autres, je suis pas une pro d'Ayurveda. Et donc il faisait les cours de yoga, mais aussi il excellait dans l'art de faire à manger.
Oui, c'est ça. Et puis alors les gens venaient manger ces plats parce que c'était vraiment divin, quoi. Donc, il a été reconnu aussi. Il partageait non seulement sa sagesse et ses enseignements, mais on lui donnait un nom affectueux parce que il offrait un thé qu'on appelait le thé du yogi et que l'on retrouve aujourd'hui sous le nom de yogi tea.
Donc je vous ai dit qu'en fait vous le connaissiez tous parce que si vous connaissez le Yogi Tea, eh ben vous connaissez Yogi Bhajan.
Exactement.
Parce qu'en fait c'est lui qui est sur la petite étiquette du Yogi Tea où il y a une parole de sagesse et une posture de yoga qui est sur la petite étiquette.
Et d'ailleurs il y a son visage aussi sur la boîte.
Voilà.
C'est comme ça qu'on peut reconnaître Yogi Bhajan. Mais il a fait des choses après qui étaient extraordinaires parce que bon il a aidé des gens qui étaient avec de la drogue. Il a aidé tous ces gens à s'en sortir grâce au yoga. D'ailleurs le Sénat américain lui a donné des récompenses. Même Gorbatchev à l'époque lui a demandé de venir. Il a fondé 3 ashos. Qui siège à l'ONU actuellement. Il a rencontré le pape Paul VI, le pape Jean-Paul II, il a le Dalai Lama, il a toujours été dans cette notion d'aller vers l'unité dans toutes les religions et dans la parole aussi de sagesse qu'il prônait dans ses enseignements. Et il y a Ikita aussi qui est maintenant où il y a tous les gens sont mis dans Ikita. Pour être professeur, il y a 10 000 professeurs actuellement dans le monde. Il y a des milliers
Bhajan,
de personnes maintenant qui font du Kundalini Yoga dans le monde.
Donc il a apporté énormément et c'est un grand monsieur, voilà.
Et surtout pour les femmes, parce que vraiment pour les femmes, il a fait un travail énorme.
Bah merci Brigitte, en tout cas pour toutes ces informations et cette découverte du Kundalini Yoga. On arrive à la fin de cette émission et on te réinvitera pour une autre émission.
Ça sera vraiment avec
plus détaillée sur les diverses sortes de yoga, puis peut-être de parler un petit peu plus longtemps de Yogi Bhajan, parce qu'on sent ton enthousiasme et on a envie d'en savoir plus, voilà. Donc merci d'avoir été mon invitée aujourd'hui.
Merci
et
Sophie.
Puis à très bientôt dans les choix de Sambhava.